Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Bénédicte Tassard. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition de RTL Soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 toute la semaine. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 9 août 2021. C'est pire et plus rapide qu'attendu. Le réchauffement climatique s'accélère et provoque des effets sans retour possible. Publication aujourd'hui du dernier rapport du GIEC, le constat choc des experts de l'ONU, illustré dans ce journal avec les incendies qui ravagent la Californie, et moins dramatique mais tout aussi probante, cette micro-algue qui oblige régulièrement les plages du Pays Basque à fermer. Invité de RTL Soir, Christophe Cassou, l'un des auteurs de ce rapport. Il portait jusque dans les traits de son visage la générosité et l'amour de l'autre. Au nom de la nation, je rends hommage au père Olivier Maire. Les propos d'Emmanuel Macron après la mort du prêtre de Vendée, Olivier Maire, tué par ce réfugié rwandais qui avait mis le feu à la cathédrale de Nantes il y a un an. Émotion dans la communauté religieuse des Montfortins. Nous ferons aussi un point sur le parcours du meurtrier présumé. Le pass sanitaire dans le quotidien des Français, c'est parti pour flasher le code à l'entrée des restaurants ou des trains. Un an de répression en Biélorussie et le président Loukachenko qui tente de déstabiliser sa voisine, l'Union européenne, en ouvrant ses frontières aux migrants. Pas de Messi à l'horizon, c'est toujours l'attente du côté du PSG. Mais nos champions olympiques, eux, sont bien de retour et ils vont faire la fête dans quelques minutes au Trocadéro. La météo, Claire Delorme, bonsoir.
Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous.
Alors demain, Claire, enfin le retour du beau temps avec une hausse des températures.
Exactement, mais avant cela quand même quelques petits bémols. Hein, surtout pour les régions au nord de la Seine qui auront des pluies intermittentes en matinée. Et puis dans l'après-midi, ça va un petit peu se désagréger avec un risque d'ondée qui sera un petit peu plus faible. On aura également un ciel beaucoup plus menaçant seulement en matinée pour la Gironde, les Landes en direction du Limousin. Et puis après ça va se décaler vers le nord des Alpes. Et puis sinon encore un petit peu d'instabilité essentiellement près des Pyrénées. Ainsi que la Corse avec quelques nuages bas aux abords du littoral. Pour les températures, en effet, la chaleur s'installe dans le sud, 27 à 32 degrés au meilleur de la journée, avec des pointes jusqu'à 36 degrés en Occitanie PACA. Sinon, partout ailleurs, il faudra compter entre 23 et 27 degrés, surtout pour la moitié nord.
Encore un peu de patience. Merci, à tout à l'heure après 18h30, Claire. À suivre vos chroniques de l'été jusqu'à 19h. Les programmes télé de ce soir avec Laurent Marsic. Ce sera juste avant 18h30, vers 18h45. Et demain, Barbara Pravi, la magnifique chanteuse de l'Eurovision, évoquera ses projets. Après la crise, comment les crises traversées par l'humanité ont bouleversé notre monde? Un petit tour au temps de Gutenberg. Et puis, Michel Sardou sera l'invité de Laissez-vous tenter, version estivale, avant de nous pencher sur les 100 ans de la radio. Bonne soirée à tous, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
Il était membre de la communauté religieuse des Montfortins, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en Vendée. Le père Olivier Maire a été assassiné aujourd'hui, apparemment par l'homme qui est mis en cause déjà dans l'incendie de la cathédrale de Nantes il y a un peu plus d'un an. Souvenez-vous, ce jeune Rwandais avait été placé sous contrôle judiciaire. Ce matin, il s'est rendu de lui-même à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre pour avouer son crime. Sur place, Patrice Gabart, la tristesse et l'effroi face à la disparition de ce prêtre si respecté.
Présenté comme un prédicateur universel et un humaniste discret, le père Olivier Maire, référent national des 26 centres de la congrégation montfortaise, était aussi le guide spirituel de la dizaine de prêtres de la maison de Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il était arrivé il y a une trentaine d'années. Les yeux rougis par l'émotion et une immense tristesse, Jean-Claude Chupin, l'un de ses proches, responsable de l'association montfortaise pour le pèlerinage de Lourdes.
C'est pas pensable, quoi. On se demande comment ça peut arriver, quoi. On est complètement perdu. L'homme qui était prêt à toujours rendre service, à aider les gens démunis et tout, il était très estimé ici. Pensez qu'aujourd'hui, il est plus là, on peut pas l'imaginer.
Dans la rue aussi, l'émotion et l'incompréhension sont à fleur de peau. Chantal, une paroissienne de 72 ans, et François, un laïc d'une quarantaine d'années.
Quand ma voisine elle est venue me le dire tout à l'heure, mais j'ai pleuré. Je suis encore touchée parce que à Saint-Laurent-sur-Sèvre, une ville sainte... J'aurais jamais cru que ça aurait arrivé ici.
Bah, c'est très surprenant, c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça, surtout sur une petite ville de 6000 habitants. On se dit finalement que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand.
Hier soir, le père Olivier Maire donnait un récital d'orgue en l'église de Saint-Laurent-sur-Sèvre devant un public conquis. Il était aussi et surtout un grand théologien.
Patrice Gabart à Saint-Laurent-sur-Sèvre pour RTL. Dans l'après-midi, le président de la République exprimait toute sa sympathie à la communauté religieuse des Montfortins. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Il doit tenir dans quelques minutes une conférence de presse. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Alice, le corps du prêtre a été retrouvé dans la chambre du suspect.
Absolument, les gendarmes ont trouvé le corps du père Olivier Maire à l'endroit indiqué par le suspect dans sa chambre. Ils n'ont pas pu déterminer les circonstances exactes de sa mort, mais la victime portait des marques de coups à la tête, selon une source proche du dossier. Et il n'y a pas eu usage d'armes blanches. Le décès serait survenu entre hier soir et ce matin. Une autopsie est en cours. Le meurtrier présumé s'est donc dénoncé lui-même aux enquêteurs. Il s'est présenté en début de matinée à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre. C'est un Rwandais de 40 ans, réfugié en France depuis plusieurs années. Il était déjà sous contrôle judiciaire suite à l'incendie de la cathédrale de Nantes en juillet 2020. On ignore pour l'heure ce qui l'a poussé à tuer le père Olivier Maire, mais la piste terroriste est écartée.
Alors Alice, l'affaire prend maintenant une tournure politique. Déjà Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, voit dans cet assassinat la faillite complète de l'État. L'auteur des faits venait donc de sortir de soins psychiatriques. Il avait été accueilli par cette communauté des Montfortins.
Absolument, le suspect avait en fait obligation de résider dans cette congrégation dans le cadre d'un contrôle judiciaire strict. Le temps de l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes, il avait reconnu avoir allumé 3 départs de feu. Il devait donc pointer 2 fois par mois à la gendarmerie et se tenir à la disposition de la justice jusqu'au procès avant une possible expulsion du territoire français. Depuis juillet 2020 et l'incendie de l'édifice, le suspect avait passé une première période en détention provisoire, puis a séjourné en hôpital psychiatrique plusieurs mois. Il est sorti de sa période de soins le 29 juillet dernier pour regagner la communauté religieuse des Montfortins il y a tout juste 10 jours.
Alice Moreno du service police-justice de RTL, merci beaucoup. Elle avait suscité l'indignation samedi dernier pendant une manifestation contre le pass sanitaire. C'était à Metz. Elle brandissait une pancarte violemment antisémite. Une enseignante vient d'être interpellée à Hombourg-Haut, en Moselle. Cette ex-membre du Front National, ancienne élue locale, est suspendue par l'Éducation nationale en attendant les suites disciplinaires. L'enquête est ouverte. Le domicile de la jeune femme a été perquisitionné pour conforter ou non la prescription d'antisémitisme.
RTL Soir, Bénédicte Tassard.
18h07, 1,5 degré supplémentaire, ce ne sera pas comme prévu pour 2040, mais 10 ans plus tôt, le réchauffement climatique s'accélère, alerte le GIEC, le groupement des experts de l'ONU, qui publie aujourd'hui son premier rapport depuis 8 ans, et la crise touche l'ensemble de la planète. Ce document prouve bien que les événements climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont dus au réchauffement. Pour la première fois, la fumée des incendies de Russie est visible au pôle Nord. En Grèce, pour le 7e jour consécutif, les pompiers luttent contre les flammes sur l'île d'Eubée. Aux États-Unis, des milliers de personnes fuient devant le Dixie Fire, le 2e plus vaste incendie de l'histoire de cet État. On fait le point avec notre correspondante aux États-Unis, Karine Auten.
C'est un feu qui fait maintenant la taille de la métropole de Los Angeles. Des bourgs rasés entièrement, 5000 pompiers sur le front, des milliers d'habitants qui fuient et racontent des impressions de scènes de guerre. Alors certes, les feux de forêt sont courants en Californie, mais ils se sont empiré récemment. 8 des 10 plus gros incendies jamais survenus là-bas ont eu lieu ces 4 dernières années seulement. La faute au changement climatique, le gouverneur de Californie a pointé du doigt ce matin les sécheresses et vents persistants. Pour lui, il est temps de se rendre à l'évidence. Les pompiers expliquent que les arbres encore debout sont plus secs que le bois en vente en magasin, ce qui explique pourquoi ils s'enflamment si vite. Cet incendie ainsi que la publication du rapport de l'ONU a poussé le chef de la diplomatie Anthony Blinken à déclarer qu'il n'est plus possible de retarder des mesures ambitieuses pour le climat.
Karine Auten aux États-Unis pour RTL. La France aussi est actuellement secouée par le dérèglement climatique. Exemple avec l'Ostréopsis qui a envahi les plages du littoral basque depuis la semaine dernière. C'est une micro-algue qui provoque des troubles au ORL. Conséquence, Philippe de Maria, les plages ont été fermées 24 heures. Elles viennent de rouvrir.
Oui, ça a débuté à Saint-Jean-de-Luz avant de remonter sur Biarritz. Depuis quelques jours, des baigneurs, des surfeurs sortaient de l'eau avec des symptômes étranges. Écoutez Jean-Philippe Oustalet de la mairie de Biarritz.
C'est arrivé sur nos zones de bain sur Biarritz, donc on a pris la décision avec Madame le maire donc de fermer, puisqu'il y avait pas mal de gens qui revenaient, qui avaient des problèmes un peu respiratoires, mal aux yeux, symptômes un peu grippaux. Et donc, on a pris la décision de fermer une par une les plages, puisqu'on avait des algues qui arrivaient dans les zones de bain.
Alors, des analyses ont été réalisées sous l'égide de l'ARS. La présence d'Ostréopsis a été confirmée. C'est donc une micro-algue qui peut provoquer des rougeurs ou des états grippaux. Mais une réunion des autorités a permis ce matin d'entériner la dilution du phénomène et d'autoriser enfin la baignade.
Je viens de faire le tour des postes là, à l'instant, il y a une demi-heure, et j'ai eu aucun retour, aucune plainte au niveau des gens. Donc c'est vrai que la houle s'est levée, on a pas mal de vagues, et ça a fait un brassage, et donc c'est reparti vers le large, je ne sais pas. Mais bon, aujourd'hui, on n'a plus de mauvais retours à ce niveau-là, aujourd'hui. Donc en 24 heures, ça a complètement modifié la donne.
Et il est recommandé de prévenir les secours sur place, les sauveteurs, en cas de symptômes suspects.
Philippe Demarien, notre correspondant dans la région pour RTL. Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous.
Il est encore possible d'inverser la tendance. Le GIEC est formel, mais à quels efforts devraient consentir les Français ?
Alors, dans le scénario optimiste du GIEC, pour contenir le réchauffement, il faudrait ne plus émettre de carbone en 2050. C'est dans 30 ans, c'est court. Alors, ou qu'on en émette un peu, mais pas plus que les forêts ne peuvent en capter, car les plantes emprisonnent le carbone de l'air. Pour la France, il faudrait réduire de 3,5% par an nos émissions, c'est-à-dire au moins deux fois plus qu'aujourd'hui, faire deux fois plus d'efforts, réduire la voiture en ville, à condition de développer les transports en commun, mieux isoler les logements et les chauffer avec des énergie verte. La France vient de reporter l'interdiction des chaudières au fioul. Il faudrait aller beaucoup plus vite dans le recyclage de nos déchets, qui permet de récupérer de la matière, du plastique, du carton, en consommant moins de carbone. Tout cela, c'était le but de la loi climat. Selon une étude demandée par le gouvernement lui-même, cette loi est nettement insuffisante. Il faut des décisions beaucoup plus drastiques, de l'argent aussi pour développer le train, les bus, aider les gens à changer de voiture ou de chaudière. Tout cela a été écrit dans les propositions de la convention citoyenne, mais la plupart des mesures ont été repoussées ou atténuées par le gouvernement et les parlementaires.
Virginie Garin, la spécialiste environnement sur RTL. Ajoutons que dans quelques minutes, notre invité sera l'un des scientifiques qui a élaboré ce fameux rapport du GIEC, Christophe Cassou, le directeur de recherche au CNRS. Extension du pass sanitaire en France, jour 1. Des cafés au TGV, vous prenez l'habitude de montrer votre QR code prouvant votre vaccination, votre test négatif ou encore votre immunité après avoir attrapé le Covid. Une mesure valable jusqu'au 15 novembre prochain. La souplesse est pour l'instant de rigueur et ce pour une semaine. Pas de sanctions véritables. Gauthier Delon-Bugard, les Français rencontrés par les reporters de RTL ont dans la grande majorité volontiers sorti leur certificat.
Oui, premier contrôle dès le café du matin dans ce bistrot parisien.
Est-ce que vous pouvez me consulter votre passe sanitaire, s'il vous plaît ?
Et premier refus pour ceux qui ne disposent pas du fameux sésame.
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au café ?
Non, mais ni au cinéma. Enfin, je pense que pour l'instant, je ne peux rien faire, quoi. Sinon, aller travailler.
À Toulouse, ce restaurateur fait preuve de souplesse. Il est au micro de Patrick Hisson.
On se donne 24 heures de tolérance où on explique un petit peu aux gens, on fait un peu du préventif. Pour l'instant, tout se passe bien. Hop, Cannes. Parfait, pour vous, c'est valide.
Moi, j'ai fait un test avant-hier.
Et moi, je suis vacciné.
Passe sanitaire obligatoire également pour prendre le TGV Gare de Lyon à Paris. Ses agents assurent les contrôles au bout du quai.
Donc le mieux aussi, ça marche.
Alors,
ou pas ?
La première injection, ça marche pas. En fait, pour avoir le passe sanitaire, oui, c'est une semaine après le deuxième vaccin.
Un bracelet bleu est distribué lorsque le passe est validé.
On donne un petit bracelet, ça prouve comme quoi on a déjà vérifié votre passe sanitaire.
Très bonne organisation, ça va nous faire gagner du temps, à mon avis, à l'embarquement.
Semaine de rodage dans les EHPAD où les visiteurs doivent montrer patte blanche. Éric Frégonat de l'association des directeurs au service des personnes âgées.
On fait, je dirais, un contrôle un peu artisanal. Par exemple, dans un établissement dans le Val-de-Marne dans lequel je travaille, les agences régionales de santé devraient nous envoyer le matériel nécessaire pour pouvoir scanner cela, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, à l'accueil, on demande le pass sanitaire et on fait confiance aux personnes, on se fie à leur bonne foi.
La consigne est d'abord de faire preuve de pédagogie. Les fraudeurs s'exposeront ensuite à une amende de 135 euros.
Et une première journée en France avec le pass sanitaire étendu, tour d'horizon signé Gauthier Delon-Bugard avec les reporters de RTL. Alors cette extension du pass sanitaire ralentira-t-elle la reprise économique comme le redoutent les professionnels de l'hôtellerie, restauration et du monde de la culture? En tout cas pour l'instant, tous les feux sont au vert pour l'économie française. L'activité a presque retrouvé son niveau d'avant-crise. C'est ce que rapporte la Banque de France. Les entreprises s'adaptent, se réjouit l'institution. Un retour à la normale est possible pour la fin de l'année.
RTL Soir, Bénédicte Tassard.
18h14 à l'étranger, Alexandre Loukachenko droit dans ses bottes. Un an exactement que la Biélorussie vit sous le joug de son président, réélu dans des conditions extrêmement discutables. Depuis un an, ce peuple courageux continue de manifester jour après jour, malgré les arrestations, la répression, l'exil forcé de milliers d'opposants. L'Union européenne a imposé des sanctions économiques à son petit voisin, mais pour faire payer les 27, le président biélorusse a décidé d'ouvrir ses frontières. Il a laissé passer 4000 migrants cette année du côté de la Lituanie. 4000 contre 80 seulement en 2020, Émilie Beaujard.
Oui, ces personnes arrivent majoritairement d'Irak par des vols directs entre Bagdad et Minsk. Elles racontent qu'elles sont ensuite acheminées par bus jusqu'à la frontière avec la Lituanie, où des gardes biélorusses ferment les yeux sur leur passage en Europe. Une fois en Lituanie, ces migrants sont arrêtés et placés dans des centres de rétention qui commencent à être saturés. Il y a quelques jours, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures s'est rendue sur place et a clairement accusé le président biélorusse Loukachenko d'être derrière ces arrivées illégales.
Nous faisons face à une action grave et agressive de la part du régime de Loukachenko. C'est clairement une provocation car il est évident que ce régime facilite le passage illégal de nos frontières. De plus en plus de personnes arrivent, c'est inacceptable et cela ne peut pas durer.
Pour tenter de contenir la situation, l'Union européenne a envoyé une centaine de gardes-frontières et le gouvernement lituanien s'est lancé dans la construction d'une barrière en barbelé le long de toute sa frontière avec la Biélorussie. En parallèle, l'Europe négocie avec l'Irak pour un possible retour de ces migrants dans leur pays.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL. À Paris, Messi se fait attendre. Les supporters font toujours le pied de grue au Bourget pour saluer l'arrivée de la star argentine du FC Barcelone. Depuis plusieurs jours maintenant, le Paris Saint-Germain négocie le recrutement. Mais avant la signature du contrat, le joueur de 34 ans devra passer par une visite médicale. Messi n'est pas à Paris, mais nos champions de Tokyo, oui. Il y a une heure, la maire de Paris, Anne Hidalgo, brandissait le drapeau olympique à la mairie. Signe que les prochains Jeux se tiendront bien dans la capitale française. Ce sera, vous le savez, en 2024. Et puis en ce moment, c'est encore une fois la fête au Trocadéro face à la Tour Eiffel. Sébastien Rouxel, la foule attend d'accueillir les équipes françaises qui nous ont tant fait vibrer en hand, en volley et au basket ces derniers jours.
Et la ferveur monte parmi ces 5000 spectateurs massés devant une longue estrade. Tous sont là pour voir Nicolas Karabic, Rudy Gobert ou encore Erwin Ngapet. J'aperçois Aurélien un drapeau tricolore à la main. Il a vécu une fin de Jeux Olympiques incroyable samedi dernier grâce à ses joueurs.
Incroyable, incroyable. On a suivi, moi je suis levé tôt pour regarder le basket, ça s'est enchaîné, la journée est passée vite, on a bien vibré, on a transpiré, et voilà, maintenant aujourd'hui on est là physiquement pour les supporter, c'est super de les voir en vrai en effet, ouais.
À quelques mètres de là, Simon ne cesse d'applaudir. Il était déjà là hier pour la passation de relais entre Paris et Tokyo, mais pas question de manquer les handballeurs dont il est un supporter de toujours.
J'espérais qu'il serait là hier, mais j'ai bien vu qu'il ne serait pas rentré. Donc du coup, je me suis dit, voilà, j'ai le temps, je vais revenir avec plaisir. Quoi. J'étais libre, j'ai même réservé entre guillemets ma journée pour ça. Et le but ultime, c'est de faire un selfie avec une médaille d'or.
Il y en a une qui vous ferait plaisir plus que d'autres.
Voilà, limite, Nicolas Karabatic, c'est un de mes joueurs préférés.
Encore quelques petites secondes à patienter avant de voir Nicolas Karabatic. En attendant, la foule vient d'offrir une ovation à Steven Da Costa qui restera à jamais le premier champion olympique de l'histoire en karaté.
Steven Da Costa ! Plus fort, beaucoup plus fort !
Sébastien Rouxel, dans une ambiance magnifique, on l'entend pour fêter nos champions au Trocadéro. Allez, on termine avec la bonne nouvelle du jour.
Bénédicte Tassard.
La rédaction de RTL a été frappée par le courage des soignants mobilisés pour partir aider les hôpitaux des territoires d'outre-mer submergés en réanimation par les malades du Covid. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lançait un appel au volontariat. Appel entendu, puisque demain, rien que depuis les Hauts-de-France, vont décoller 8 médecins, 22 soignants. Écoutez Frédéric Baptiste, le chef des urgences de l'hôpital de Calais, et Céline Guélin, infirmière au même hôpital.
On sait que les difficultés sont énormes, que les équipes sur place sont elles vraiment vraiment fatiguées, et donc rien que pour ça justifie notre mobilisation pour aller aider les collègues des DOM-TOM. Ça peut se faire que si dans l'équipe, il y a aussi une solidarité pour reprendre les journées, les gardes qu'on aurait dû faire si on était resté sur Calais. Donc la solidarité, elle vient de ceux qui partent et de ceux qui restent aussi pour se réorganiser. Et on a pu voir ça assez rapidement et finalement prendre la décision de partir assez rapidement.
La fatigue est là, mais sans hésitation, on va aller en aide à nos collègues des Antilles. On a vécu les trois vagues précédentes ici sur l'hôpital. Donc on sait un petit peu à quoi s'attendre et on sait pourquoi on part. C'est grâce aussi à nos familles qui nous soutiennent qu'on peut partir.
On salue Frédéric Baptiste et Céline Guélin qui étaient ce midi sur RTL avec Agnès Bonfillon. Dans un instant, retour sur l'alerte rouge du GIEC sur le climat. Invité de RTL Soir, l'un des auteurs du rapport alarmiste.
Bénédicte Tassard, RTL Soir.
Il est 18h20 et c'est l'heure d'accueillir notre invité. On parle climat, bien sûr, avec Christophe Cassou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'un des auteurs de ce rapport dévoilé aujourd'hui. Le GIEC, je le rappelle, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Clairement, Christophe Cassou, l'heure n'est plus à tirer la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. On le subit déjà fortement. Le dérèglement touche toutes les régions du monde. Ça s'intensifie. Alors, limiter le réchauffement à 1,5 degré, est-ce que c'est déjà un pari raté ?
Alors, ce rapport, ce nouveau rapport du GIEC est en fait un rappel à la réalité, hein, et doit normalement induire un électrochoc, en fait, pour prendre conscience qu'il faut diminuer de manière rapide, de manière immédiate, de manière très soutenue, c'est-à-dire dans le sens où on ne s'arrête pas, et à très grande échelle, c'est-à-dire dans tous les secteurs, il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré.
Et où en est-on aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, le réchauffement, si l'on regarde la dernière décennie, le réchauffement est de l'ordre de 1,1 degré par rapport à la référence climatique que l'on utilise, c'est-à-dire la fin du 19e siècle, que l'on appelle le début de l'ère pré-industrielle.
Voilà, ça ne veut pas dire qu'il fait 1,1 degré de plus par rapport à il y a 10 ans.
Non, il fait 1,1 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle, donc la fin du 19e siècle, et on se dirige vers 1,5 degré avant 2040, et puis ensuite vers des scénarios, nos émissions actuelles et nos émissions futures vont déterminer quels seront les niveaux de réchauffement de demain.
Et est-ce que c'est déjà trop tard ? Est-ce que c'est déjà trop tard pour limiter à 1,5 degré ?
Alors, le seuil de 1,5 degré sera franchi avant 2040, mais aujourd'hui, nous sommes dans une période cruciale, car l'ampleur des changements de demain dépend, en fait, des choix et des actions d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les actions et les mesures que l'on prend maintenant conditionnent le niveau de réchauffement, le niveau de stabilisation du réchauffement que l'on va avoir après 2040.
Parce qu'on est d'accord, Christophe Cassou, c'est l'humain qui est en cause.
Alors, ce rapport a une conclusion très forte sur dans ce qu'on appelle l'attribution des changements climatiques aux activités humaines. Ce rapport affirme donc de manière très forte et de manière sans équivoque que les activités humaines sont responsables des changements climatiques récents.
Et notamment,
il va même plus loin.
Oui, allez-y.
Excusez-moi, il va même plus loin dans le sens où si on prend la dernière décennie, 2010-2019, où je vous ai dit que l'augmentation de température était de l'ordre de 1,1 degré, le rapport montre que la totalité du réchauffement, et je dis bien la totalité de ce réchauffement, est imputable aux activités humaines.
Et notamment la production des énergies fossiles, le charbon, le pétrole ?
Alors évidemment, le principal facteur qui induit ce réchauffement, ce sont les émissions de CO2, puis ensuite les émissions de méthane et les émissions de la pollution atmosphérique, les petites particules en fait de pollution qu'il y a dans l'atmosphère, ont induit un refroidissement temporaire de l'atmosphère. Et donc aujourd'hui, en fait, on a cet effet réchauffant très important du CO2 et du méthane et des autres gaz à effet de serre.
Et conséquence, par exemple, la fonte des glaciers, c'est irréversible ça ? Est-ce que les glaciers vont disparaître ?
Alors, il y a de l'irréversibilité dans les changements en cours, en particulier dans l'océan et dans la cryosphère qui comprend les calottes polaires et les glaciers. Donc, les glaciers vont continuer à fondre, quel que soit le niveau de réchauffement, sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Par contre, la vitesse du fonte dépend du niveau de réchauffement sur lequel le climat va se stabiliser.
Et là, quelles conséquences ? Alors, déjà attendu, de la montée du niveau de la mer.
Alors, La fonte des glaciers conduit bien évidemment à une hausse du niveau de la mer. Donc depuis le début de l'ère industrielle, hein, on a déjà une hausse de 20 cm et cette hausse tend à se poursuivre. Donc suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc suivant les niveaux de réchauffement, on pourrait atteindre des valeurs qui sont de l'ordre de 80 cm à 1 mètre à la fin du siècle. Mais ce qui est important de voir, c'est que dans ce nouveau rapport du GIEC, on évalue également des phénomènes que l'on appelle de faits probabilité à fort impact qui pourraient conduire à amplifier l'effet du réchauffement. Par exemple, on sait que les calottes polaires sont instables. Et donc, si ces calottes polaires, en particulier de l'Antarctique, donc s'effondrent, dans ce cas, on aurait une hausse du niveau de la mer qui pourrait être de 2 mètres à la fin du siècle.
Alors, Christophe Cassou, vous êtes 234 scientifiques à avoir rédigé ce rapport du GIEC, 66 pays intervenants. Est-ce que vous espérez vraiment que les gouvernements vont s'en saisir? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez encore?
Alors ça, c'est pas du tout on n'a pas du tout évalué en fait dans ce nouveau rapport du GIEC les trajectoires hein, qui sont suivies sur lesquelles les sociétés humaines s'engagent. Nous, dans ce premier volet du GIEC, on détermine le champ des possibles climatiques en fonction de ces trajectoires.
Oui, mais vous, est-ce que vous sentez une volonté cette fois-ci ou pas?
On verra dans quelques mois. Ce rapport du GIEC normalement doit être le socle objectif et le socle donc le plus récent et le plus complet des futures négociations climatiques qui se dérouleront à la COP26.
À Glasgow.
À Glasgow, oui, c'est ça, au mois de novembre. Et donc normalement ce rapport qui est alarmant, mais comme les autres rapports l'étaient. Devrait être un électrochoc dans la mesure où aujourd'hui, on montre bien que nos actions de maintenant conditionnent les changements climatiques futurs.
Merci beaucoup Christophe Cassou d'avoir été l'invité de RTL Soir. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, l'un des auteurs de ce tout nouveau rapport du GIEC sur l'évolution du climat. Merci beaucoup. Après l'apéro, le barbecue, les copains, la famille ou en rentrant du boulot, vous allumerez la télé ce soir peut-être. Vos programmes dans un instant avec Laurent Marsic.
Bénédicte Tassard, RTL Soir.
Laurent Marsic, bonsoir.
Bonsoir Bénédicte.
À la télé ce soir, c'est le jour des madeleines d'été et de l'évasion.
On va commencer par l'évasion, inédite ce soir sur France 5 avec Au bout c'est la mer en compagnie de François Pécheux. Nous partirons ce soir aux portes du Sahel, sur le fleuve des eaux du partage, comme il dit, alias le fleuve Sénégal. 1750 km, François Pécheux lui va en parcourir 600, ce qui est déjà pas mal, jusqu'à l'océan Atlantique. Un fleuve frontière naturelle entre la Mauritanie, le Mali, le Sénégal. Et comme à chaque fois, des rencontres et des images d'une beauté sublime à Saint-Louis, sur la fameuse langue de Barbarie. Il fait une rencontre avec un homme qui lui livre le secret d'une vie heureuse. Ici, dit-il, on ne forme qu'un seul peuple.
Ici, nous, on est bercés déjà, c'est beau. On est bercés et gâtés par les richesses qui sont au fin fond de ces eaux.
Oui.
On est là parce qu'on est à côté de l'air pur. Ouais, et du vent qui est une musique pour nous, avec les bruits des vagues qui nous bercent la nuit. Quand tout est calme, on est comme sur un bateau. Tu vois tout ce quartier?
Oui.
C'est une seule famille.
Ah oui?
Oui. On partage tout.
Allez, pour faire la jonction avec votre invité de tout à l'heure, c'est un endroit qui est justement menacé par le réchauffement climatique. Au bout, c'est la mer. France 5, 20h55.
Et après l'évasion, les Madeleines de Proust.
Oui, c'est plus joli que rediffusion, parce que l'été, c'est aussi le temps des programmations qu'on aime revoir ou pas, ou revoir. Revoir, par exemple, le deuxième opus des aventures d'OSS 117.
Ah,
Rio
oui.
Ne répond plus sur M6 à 21h05. Été 1967, une nouvelle émission emmène Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS, pardon, 117.
c'était pas le
même, campé par Jean Dujardin à Rio, donc où il doit récupérer des fichiers d'anciens collabos et nazis. Et OSS, c'est pire que jamais, misant tout évidemment sur son charme ravageur.
Oh pardon, je suis affreusement maladroite. Apparemment, je vous ai éclaboussé.
Mais je vous en prie. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps. C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.
Quel réveil!
Je n'y suis pour rien. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge.
OSS 117 M6, 21h05. Dans la série des rediffusions, avec un petit goût de retour vers le futur, TF1 diffuse ce soir deux épisodes de la saison 10 de Camping Paradis. Ça va être le même match que la semaine dernière avec M6. Épisode particulier puisque, suite à une chute dans son camping, Laurent Ournac, alias Tom, le patron du Camping Paradis, se réveille en 1976. à l'époque où on mettait 15 heures pour monter une tente, mais aussi à l'époque de la création du camping de ses parents. Problème, il découvre que ce n'est pas le grand amour entre eux. Il doit corriger ça s'il veut lui-même exister dans le futur.
Si vous veniez vraiment du futur, il y aurait forcément une raison pour ça.
En fait, la banque a trouvé un acheteur pour le camping. Et je crois que ma mission, c'est de faire en sorte que mon père ne vende pas. Et pour ça, il faut que ma mère tombe amoureuse de lui. Et ça, c'est pas gagné.
Voilà, TF1. Enfin, en rayon rediffusion, je note pour les enfants ce qui est de loin la meilleure des adaptations animées des aventures d'Astérix et Obélix. Et pour cause, ce n'est ni pour le premier film d'Uderzo et Goscinny avait été écarté à la réalisation. Là, ce sont eux qui étaient aux manettes pour adapter ce qui est sans doute la meilleure aventure d'Astérix et Obélix, à savoir Astérix et Cléopâtre, 1968, avec deux pépites à l'intérieur, deux chansons, dont le « Quand l'appétit va, tout va », adaptation par Pierre Tchernia d'une célèbre phrase d'un député de la Creuse en 1850 qui disait « Quand le bâtiment va, tout va ».
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les canottes, vive les grignotes. Quand l'appétit va, tout va. Ne l'oubliez pas,
mon accent. Sur une musique de Gérard Calvi, Astérix et Cléopâtre, W9, 21h05.
Merci Laurent. Et après la télé, on vous retrouve dans une petite demi-heure, cette fois pour parler radio, avec votre belle chronique de l'été, les 100 ans de l'ère radio. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 18h30.
Le Bénédicte Tassard, RTL Soir.
Le rappel des titres de l'actualité. Un prêtre tué apparemment par un réfugié rwandais. Drame en Vendée aujourd'hui. Une enquête ouverte pour homicide volontaire, annonce le vice-procureur de La Roche-sur-Yon. Le meurtrier présumé s'est rendu à la gendarmerie. Il est placé en garde à vue. Il était jusqu'à ses derniers jours en hôpital psychiatrique, soupçonné de l'incendie de l'année dernière à la cathédrale de Nantes. Le climat devient fou. Le seuil des 1,5 degré de réchauffement de la planète, prévu en 2040, sera franchi 10 ans plus tôt, menaçant de nouveau désastre sans précédent l'humanité. À moins de 3 mois de la conférence climat COP26 à Glasgow, le constat choque des experts climat de l'ONU. Passe sanitaire exigé pour s'installer en terrasse, prendre le train ou accompagner un patient à l'hôpital. Les Français prennent de nouvelles habitudes et font flasher leur QR code. Lionel Messi se fait désirer et joue contre les nerfs des supporters du PSG. Toujours pas de fumée blanche à l'horizon. Après ses adieux au FC Barcelone, la superstar argentine fait durer le suspense. Les Olympiques de volley, de basket, de hand, elles, vont faire chauffer le Trocadéro. Ça sera dans quelques minutes. Le ciel et ce qui nous attend demain, Claire Delorme, la météo est sous de bons auspices.
Exactement, et pour faire écho à la chronique de Laurent Marsic, après l'appétit va, tout va, eh bien moi j'ai envie de dire le soleil va. Quand le soleil va, tout va, tout simplement. Donc en effet, il va pouvoir dominer l'ensemble des régions avec en prime de la chaleur qui va s'installer dans le sud, mais avant cela quand même quelques petits bémols. On aura surtout vers la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, ainsi que toutes les régions en fait, du nord-est et du nord de la Seine, en fait, une petite perturbation, donc encore un petit peu de pluie qui seront intermittentes en matinée. Ça va s'espacer dans l'après-midi. On va pouvoir quand même bénéficier de quelques timides éclaircies. Partout ailleurs, le soleil règne en maître, mais on aura quand même un ciel encore assez menaçant en matinée vers la Gironde, les Landes, en remontant vers le Limousin. Et puis cette petite menace, elle va se décaler dans le courant de l'après-midi vers le nord des Alpes et également aussi de l'instabilité essentiellement en fin de journée au niveau des Pyrénées avec de bonnes averses qui pourraient éclater, tourner à l'orage. Mais c'est qu'en fin de soirée. Pour les températures, on y vient. Ça commence à monter. Il faudra compter entre 13 et 15 degrés en général pour la matinée. Par contre, pour l'après-midi, il faudra compter entre 23 à 27 degrés pour la moitié nord. Et sinon, ça sera 27 à 32 degrés, s'il vous plaît, dans le sud, avec même des pointes allant jusqu'à 36 degrés au meilleur de la journée en direction de la Méditerranée.
Ça devient bon. Merci beaucoup, Claire.
Avec plaisir.
On vous retrouve après 19h.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Et demain, comment préparer la suite? Comment préparer la rentrée? Après 1 an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose tout cet été un regard vers l'avenir. Et aujourd'hui, c'est Barbara Pravi, notre candidate à l'Eurovision. Barbara Pravi a terminé 2e avec sa chanson. Et pour son album, eh bien, il faut maintenant patienter un petit peu. C'est le 27 août que sortira « On n'enferme pas les oiseaux ». Rencontre avec Barbara Pravi, signée Guillemette Franquet.
Bonjour Barbara Pravi.
Bonjour Guillemette.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Très bien aussi. Comment vous abordez la rentrée musicale? Comment vous la sentez?
Je pense que ça va être une belle rentrée musicale parce qu'il va y avoir une grande effervescence de retour au concert dans les salles. Pour l'instant, il y a beaucoup de scènes ouvertes et je pense que les gens vont retourner dans les salles. J'espère qu'il y aura plein de nouveaux artistes qui arrivent. Moi, j'adore les jeunes artistes qui déboulent avec des nouveaux projets, etc. Je trouve ça hyper excitant. Et je pense que ça va être une belle année, moi, 2021-2022.
Et pourquoi ? Elle vous inspire, cette année à venir ?
Je crois que toutes les années, elles ont leur lot d'inspiration, mais c'est surtout que, en fait, quand on sort d'une période aussi étrange et nouvelle, quand on passe un cap humain qui est à échelle internationale, quoi, avec ce qui s'est passé avec le Covid, je pense qu'il y a toujours des bouleversements. On peut pas les prévoir, on sait pas ce que ce sera, et il y a souvent de très très belles choses qui sortent de ces années-là. J'ai hâte de voir quelles seront les choses dans l'art. C'est souvent ce qui fait les plus belles années de l'art. Par exemple, l'après-guerre, il y avait eu un foisonnement artistique, etc. Et j'espère finalement qu'on saura se nourrir de cette période.
Vous avez envie d'écrire dessus, de chanter sur cette période ?
Pas sur cette période directement, mais en fait je l'ai fait quelque part puisque l'album que je sors, il a été fait un peu avant, un peu pendant, un peu après, donc il est mélangé à toute cette période-là. J'ai beaucoup écrit, beaucoup chanté, beaucoup composé pendant ces mois-là, donc je crois que ça vient s'inscrire à l'intérieur de nous et puis ça se transforme et puis parfois on peut sortir des choses peut-être 10 ans après. Il n'y a pas vraiment de règles. Cette période-là en tant que telle, elle n'est pas particulièrement inspirante, je crois, mais elle pose des questions. Et c'est se poser des questions qui est inspirant.
Quelles questions elle a posées pour vous, cette période ?
Moi, j'ai remis mon existence en question, mais je crois un peu comme tout le monde. Mais j'ai compris beaucoup de choses sur mon indépendance, par exemple. J'ai compris beaucoup de choses sur mes choix d'entourage. Je me suis rendu compte des choses qui étaient importantes pour moi et je les ai mises beaucoup plus en valeur par rapport à... Il y a des tas de choses qu'on fait et qui sont un peu... ou des tas de gens qu'on côtoie qui sont pas nécessaires à notre vie et à notre embellissement. Et en fait, ça remet tout ça en perspective parce qu'on se rend compte que on sait pas ce qui peut se passer demain, qu'on peut potentiellement mourir en claquant des doigts. Et donc, du coup, on se dit que les choses qu'on a envie d'avoir près de nous, ce sont des belles choses et uniquement des belles choses et qu'on a envie nous-mêmes d'être une belle chose, une belle personne. Et on prend beaucoup plus conscience de ça. Ça devient quelque chose de concret et de réel. Et moi, c'est ça que ça m'a apporté, beaucoup.
Si vous devez penser à un mot pour qualifier le Covid, vous pensez à quoi, là ?
Chiant. Test PCR. J'en peux plus. Des tests PCR. Je penserais à quoi ? Franchement, grosse vague, quoi. Mais les mots qui me viennent, c'est vraiment chiant, les tests PCR.
À votre avis, qu'est-ce qu'on aura dans le monde de demain qu'on n'avait pas dans le monde d'hier ?
Des masques qui font de la musique. Je sais pas. Non, on aura... Je suis très nulle, moi, en anticipation, parce que je regarde pas du tout, ça m'angoisse, en fait, les séries d'anticipation, ces trucs-là. Moi, j'espère qu'on pourra voler, en fait. Mais vraiment, avoir des ailes, et puis décider de les ouvrir et de s'envoler, moi, ça, j'adorerais, par exemple.
Est-ce qu'il y a une musique ou un son qui vous a accompagné pendant cette période et que vous avez vraiment beaucoup écouté ?
J'ai beaucoup écouté de musique classique, beaucoup plus que d'habitude, et je pense que c'est parce que ça me calme. J'ai écouté Debussy particulièrement. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette musique-là, chez cet homme-là, qui me remplit à l'intérieur d'une façon très particulière, très calme.
Merci beaucoup, Barbara Pravi.
Merci beaucoup.
Choix de Barbara Pravi. Merci beaucoup Guillemette Franquet. Barbara Pravi, elle sera dans le studio de RTL le 27 août prochain à 9h. Pour un Laissez-vous tenter, elle nous fera écouter son nouvel album.
Cette pure chose,
mon cri s'est abattu sur le monde.
Ça sera vachement mieux.
Martial You sur RTL.
La révolution industrielle était en marche et notre standard de vie suivait la courbe ascendante du progrès mécanique.
Après la crise.
Et la crise épidémique est l'un des multiples rebondissements de notre humanité tout l'été. Nous versons du côté optimiste et nous voyons comment les crises ont donné naissance à des révolutions technologiques, à des avancées sociales historiques. Aujourd'hui, l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, on la doit à une guerre de religion sanglante entre les chrétiens et les ottomans. C'est à cette époque que Constantinople, la chrétienne, va tomber pour devenir Istanbul, la musulmane, Martial Liu.
On les appelle des bombardes. Ces canons rudimentaires, tirés par 60 bœufs, infligent une pluie d'obus aux remparts de Constantinople en cet hiver 1453. Une musique infernale, jour et nuit. La grande cité chrétienne, encerclée de 3 murailles successives, avait pourtant toujours résisté aux invasions jusqu'ici.
Celui qui conquérera Constantinople aura le monde à ses pieds. Mais regarde bien ces murs, mon fils. Ils ont arrêté chaque armée qui a un jour tenté de prendre la ville. Ils m'ont arrêté, moi.
Le 29 mai 1453, le sultan Mehmet II entre dans Constantinople, porte de la chrétienté, ville richissime qui servait de port d'attache pour le commerce de la soie venant de Chine. Pour celui qui va devenir le pape Pie II, c'est un signal d'alarme, car la cité qui pourrait tomber ensuite aux mains des Ottomans, c'est Venise. Pour la chrétienté, il devient urgent de pouvoir communiquer vite. Les guerres contre les Ottomans ont accéléré les technologies militaires, notamment les armes à feu, et le travail sur l'artillerie va indirectement inspirer Gutenberg, un inventeur allemand de la ville de Mayence. Il ne va pas couler du métal pour faire des cartouches, mais pour reproduire les lettres de l'alphabet comme des tampons.
Gutenberg a été précédé par l'arrivée des moulins à papier.
Georges Bischoff, historien du Moyen-Âge.
Cette invention qui était rendue possible aussi par des progrès des technologies du métal, contemporaines de l'irruption de l'artillerie. Il s'agit en effet de fondre des objets, des balles par exemple, ou des caractères mobiles, dans cette région du Rhin qui disposait d'importants capitaux et surtout d'un milieu intellectuel qui pouvait l'inciter à poursuivre son action et ses recherches.
L'imprimerie accélère la diffusion du livre et donc la diffusion des idées chrétiennes. Le premier ouvrage est une Bible, bien sûr, qui surpasse le travail des moines copistes.
Gutenberg a mis 2 ou 3 ans à composer sa Bible, c'est-à-dire le même temps qu'il fallait pour copier un manuscrit. La différence étant que sa Bible a été tirée en 150 exemplaires ou peut-être 200. Donc vous multipliez l'écrit par 100. C'est fabuleux.
Mais très vite, on va bien au-delà de la rédaction des ouvrages religieux. L'imprimerie permet de faire de la propagande et même de lever des fonds.
Alors c'est à la fois de la propagande et c'est la naissance des médias. Et Gutenberg, au même moment, va imprimer le premier imprimé administratif de l'histoire, des billets d'indulgence, hein, en quelque sorte des tracts, c'est-à-dire une remise de peine au purgatoire, s'ils soutiennent l'entrée en guerre contre les Turcs. C'est un financement participatif.
Ces indulgences financeront les croisades, mais aussi les expéditions des grands explorateurs, dont celle de Christophe Colomb à la fin du XVe siècle.
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnole cette terre que j'appelle San Salvador.
L'invention de Gutenberg fera aussi naître un nouveau métier, celui de reporter de guerre, car l'un des premiers ouvrages raconte les exploits d'un combattant qui va ensuite devenir un mythe de la littérature du 19e siècle sous la plume de Bram Stoker.
Parmi les récits qui sont diffusés, il y en a un qui est le récit des exploits du voïvode de Transylvanie, Dracol Vaida.
C'est d'ici que se déroula l'effroyable et révoltante histoire du prince Dracula et de la femme qu'il aimait.
Dracula est un prince roumain qui résiste contre les Turcs avec une violence absolument extraordinaire. On l'appelle Vlad l'Empaleur, avec portrait, le premier portrait de Dracula, figure dans une de ses petites brochures.
Gutenberg a emprunté beaucoup d'argent pour mettre au point la machine à imprimer. L'invention va faire entrer le monde dans la Renaissance, mais elle ne connaît pas un succès immédiat. Et ses créanciers, Fust et Schoeffer, dépossèdent Gutenberg de son invention. Ils s'installent à Paris en 1463 pour toucher un public plus large et plus lettré. Et c'est là, rue Saint-Jacques, à proximité de la Sorbonne, que va émerger au fil du temps l'industrie du livre avec les imprimeurs allemands et bientôt les principales maisons d'édition.
Après la crise, une chronique RTL à retrouver sur notre appli. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été et les souvenirs savoureux de Michel Sardou, puis les 100 ans de la radio avec au menu Zappy Max, Lynn Renaud et la dernière interview radio de Claude François.
RTL Soir,
Bénédicte Tassard.
Il est 18h46 sur RTL, l'heure de réécouter les confidences exceptionnelles d'un de nos chanteurs les plus populaires, Michel Sardou, avec Steven Bellery et Bernard Lehu. On réécoute leur intervention dans la matinale de Jérôme Florin, et ça commence bien sûr en musique.
Ne m'enterrez pas encore, je ne suis pas mort, je dors.
Michel Sardou qui triomphe en librairie depuis la parution il y a 3 mois maintenant de son autobiographie Je ne suis pas mort, je dors, aux éditions XO. Vous avez eu le privilège de rencontrer Michel Sardou chez lui à Paris pour évoquer longuement ses souvenirs.
Oui, c'est Anne-Marie Perrier, la femme du chanteur, qui nous avait ouvert la porte. Un bulldog anglais et deux carlins se précipitent, un couple d'inséparables chantonne au loin. Un perroquet gris est en liberté. Michel Sardou, hilar, nous révèle que ce gris du Gabon s'est chanté. Non pas je vole, mais les lacs du Connemara. Notre conversation avec le chanteur retraité durera plus d'une heure sans être interrompue par le perroquet, mais ponctuée quand même par les perruches.
Oui, oui, hein, Michel Sardou en pleine forme. L'enfance, ses parents, mai 68, ses amis, Johnny bien sûr, la scène, ses chansons, les confidences se sont enchaînées. Première question posée à Michel Sardou, pourquoi avoir choisi ce titre pour son livre « Je ne suis pas mort, je dors ».
Ben parce que ça me rappelle un souvenir assez amusant. J'avais été invité à déjeuner à l'Élysée par le président François Mitterrand. De but en blanc, il m'a dit « Je vous préviens, je connais toutes vos chansons. » Il y en a une que vous mettez plus sur scène, c'est « Je ne suis pas mort, je dors et vous avez tort. » Parce que c'est une excellente chanson de scène. Et depuis, je l'ai remise chaque fois. Je ne l'ai jamais retirée. Et comme ma maison d'édition ne met pas le titre que j'avais choisi au début, et m'en avait proposé un autre qui me déprimait complètement... J'y tiens, mais pourquoi pas celle-là, ce titre-là.
La chronologie vous emmerde, mais pourtant, on va respecter cette chronologie et on va parler un peu de votre enfance.
Oui.
Diriez-vous que vous avez été un enfant heureux, Michel Sardou ?
Ah oui, oui, oui. J'ai été un peu seul. Je n'ai pas été malheureux, mes parents étaient toujours absents, toujours en tournée, toujours par vos et par vos. Donc, j'étais libre, en fait. Mais je n'étais pas en froid avec mes parents, hein, soyons clairs. Tout allait très bien, sauf que, un peu comme les marins, si vous voulez, bon, bah, faut bien attendre qu'ils rentrent. Quoi, voilà.
À propos de cette enfance, vous vous racontez que le plus beau souvenir, c'est le temps passé chez votre nurse, Marie. Marie, oui. La garde barrière, la grosse paysanne.
Qui s'appelle Cœur-la-Petite, je vous mets au défi de le trouver, qui est au bord de la Meuse, tout petit village.
Vous en parlez autrement dans le livre. Vous vous souvenez de la formule ?
Le trou du cul du monde, oui. C'est vraiment le trou du cul du monde au bord de la Meuse. Et là, j'étais à la campagne, j'étais dans une petite ferme. Alors, j'ai tout eu, là. J'ai appris des tas de choses. Un jour, je suis même tombé sur un pendu au milieu de 140 fromages de chèvre. Je vois ce type qui se balançait doucement, comme ça, au milieu des fromages de chèvre de Marie. Et la seule chose qui m'a frappé, c'est qu'il était habillé en dimanche. Il s'était fait beau pour mourir. C'était en fait un amoureux éconduit de Marie qui, pour se venger, est venu se tuer chez elle. C'est presque du Victor Hugo.
Alors, vous racontez votre mai 68. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très révolutionnaire.
Non, il a été comique. Je voulais voir de près ce qui se passait. Ça m'intéressait quand même ce qui se passait. Je suis allé à la Sorbonne et à un moment donné, évidemment, le Cohn-Bendit pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Un doigt se lève, un révolutionnaire, assis devant... qui nous dit si on allait peindre la Joconde en rouge. Et là, je suis parti, j'ai siphonné les voitures, j'ai été à la campagne. Ma révolution s'est arrêtée là, parce que vraiment, c'est un confiné.
On parle des amitiés, notamment. Vous évoquez celle née au Moncel, je cite, ce collège de Bourges friqué.
Oui.
Et vous citez Gérard Garouste, Jean-Michel Ribes et Patrick Modiano. Et vous dites que Modiano était un grand champion de la corde à nœud.
Il était nul en sport. La seule chose qu'il faisait, c'est la corde à nœud. Il était très fort, parce qu'il est très grand. Et c'est un ami de la famille. D'ailleurs, un vieil ami de ma femme.
Anne-Marie Perrier.
Et Modiano, je le vois souvent, d'ailleurs, on doit se voir là très vite, c'est à la campagne, il va absolument voir ma maison en Normandie. Voilà.
Et alors, de quoi parlez-vous quand vous êtes avec Modiano ? Parce que les conversations avec Modiano sont toujours imprévisibles.
Il ne parle pas, Modiano. Ouais. Il est très taiseux, Modiano. Et sauf quand on est ensemble, parce qu'on a fait un dîner ensemble tous les quatre, on s'est retrouvés avec ma femme et sa femme, et Ribes et Garouste. Il n'a pas arrêté de nous rappeler nos souvenirs. Il se souvenait de trucs que moi, j'avais complètement oublié.
Une mémoire phénoménale.
Ouais, là, on s'est beaucoup amusé. C'est pas un clown, mais pas loin.
Alors, au Moncel, il y avait aussi un certain Patrick Balkany, non ?
Oui, il y avait Balkany. qui était charmant. On était aussi des conneurs que nous, d'ailleurs. Il faisait partie de la bande, on était les mousquetaires. Ma mère me rappelle, tiens, tu fais semblant d'oublier Balkany. Non, j'oublie pas Balkany. Sa carrière est sa carrière, ce qu'il fait, il le fait, ça le regarde. Ça me regarde pas, c'était un très beau copain et ça l'est toujours resté, c'est un ami. Maintenant, les ennuis qu'il a ne me regardent pas et la politique qu'il mène ne me concerne pas non plus.
Alors, il y a une autre amitié qui est celle avec Guy Bedos.
Ah oui, ça c'est autre chose. C'est la famille, ça. C'est une belle histoire. Il est venu à mon secours à une époque où la presse était très, très rude avec moi. Et je le regrette beaucoup parce que j'aimais beaucoup cet homme. Il avait une phrase pour moi. Il disait, Sardou, c'est un type qui chante juste, mais qui pense faux. Comment vous dire? On avait une relation vraiment familiale. C'était un homme merveilleux. Hein. Il avait un humour fou, il avait un talent fou. C'était un personnage formidable.
L'autre amitié qui a marqué votre vie, c'est celle avec Johnny Hallyday.
Oui.
Nous avons vécu comme deux frères, écrivez-vous. Est-ce que Johnny reste l'une de vos plus belles histoires d'amitié?
La plus longue, en tout cas. Oui. Et certainement une des plus belles, parce qu'on s'est quand même franchement bien marié pendant 30 ans. On a passé de bons moments. Malheureusement, j'ai commis une faute, une erreur. J'ai voulu faire de l'esprit. Je sais pas mon truc. Sur scène, tout du moins, j'ai voulu faire une improvisation parce que j'étais submergé par la presse People, vous voyez, tous les matins. Et un jour, je me moque de lui et de son clan en Suisse, machin, etc. Je l'ai fait sans penser à mal, moi. Seulement, évidemment, quelqu'un a été lui répéter. Parce que dans ce métier, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des gens qui écoutent et qui répètent. C'est un peu Fouché dans le coin, autour. Qui lui a dit que je lui étais moqué de ses enfants. Mais à aucun moment. J'en parle à Eddie qui me dit, oulala, c'est à parler des filles, tu vas être emmerdé. Et j'ai été emmerdé, effectivement. Il a très mal pris. Un jour, on se rend compte, c'était l'anniversaire du président Sarkozy, on était chez lui. Je me lève et je lui dis, écoute ce que j'ai à te dire. Au moins, je veux te parler, mais je veux pas parler avec toi. Je lui ai dit, ça tombe bien, t'as qu'à écouter. Il a jamais voulu. Et on s'est plus jamais reparlé.
Ça reste une blessure pour vous?
Pas une blessure, un regret. Je pense que si je lui avais raconté exactement l'histoire, il aurait compris.
On se souvient que vous aviez dédié une chanson à Johnny, hein, à l'idée Le Phénix en 73, et vous y chantiez « Et ta vie et ton sort défient tous ceux qui crient ta mort, je te suivrai jusqu'à ma mort ». Quand vous avez appris son décès, vous avez réagi comment, Michel Sardou?
Oh, bah, comme tout le monde, ça m'a fait beaucoup de chagrin. Surtout qu'il est mort malade, diminué, franchement ça m'a mis un coup. Je savais qu'il était malade, mais je ne savais pas qu'il allait en mourir, donc ça m'a fait du mal, évidemment.
Mais heureusement, vous avez passé de bons moments.
Oui,
vous en
oui,
racontez
oui.
Plusieurs dans le livre. Je ne sais pas s'il fallait en évoquer un seul, le plus fou.
Il y en a des milliers. Je finis le livre avec une histoire où on fait de l'ésotérisme mystique. On était ivre mort. Hein. On était chez moi.
Ça vous arrivait de temps en temps. Hein.
Avec lui, beaucoup. Oui. Et où ma mère me fait dire, quand on prend du hashish avec de l'alcool, ça donne faim et ça rend con. C'est exactement ce qu'on était à ce moment-là.
Vous avez même dormi avec Johnny.
Voilà, c'était une histoire dans un hôtel très drôle. On était crevés, je crois qu'on avait fait près de 400 km en moto. Et on arrive dans un hôtel qui avait été réservé par la production des Restos du Cœur, je crois. Donc le patron de l'hôtel avait mis la chambre royale, la chambre présidentielle, etc. On était tellement crevés qu'on rentre dans la première, on retire nos bottes, on se fout sur le lit, on se couche. Et l'autre en descendant, il dit, vous saviez que Sardou et Johnny couchaient ensemble, vous, à ses employés, voilà.
Vous auriez dû, Michel Sardou, être de l'aventure des vieilles canailles.
J'aurais pu, mais bon, ça s'est pas fait. Et je pense que Johnny n'y tenait pas. Qui était reculé, le vieux. Ça m'a été égal.
Vous avez regardé le spectacle en DVD?
Non, je l'ai pas vu.
Sur RTL, la suite de cet entretien exceptionnel accordé par Michel Sardou à Steven Bellery et Bernard Lehu à l'occasion de la parution de son autobiographie « Je ne suis pas mort, je dors » publié aux éditions Sexo.
Merci Jérôme Florin, Bernard Lehu, Steven Bellery, voilà pour Michel Sardou. Maintenant, comme promis, passons à Claude François.
Laurent Marsic, les 100 ans de la radio sur RTL.
Oui, parce que Laurent Marsic a déniché pour vous dans les archives de Radio Luxembourg puis de RTL la dernière intervention de Claude François à la radio. C'était dans l'émission RTL sur la route ou la bulle RTL à Lyon, un mois et demi avant la mort du chanteur, février 1978.
L'idée d'une radio sur les routes naît d'un constat assez simple. En 1945, beaucoup de villes françaises ont été détruites. Au mieux, elles peuvent offrir des salles de cinéma de 400 places. C'est aussi le constat du bouillonnant patron des programmes de la future RTL, Louis Merlin. Il faut, se dit-il, un chapiteau. Le cirque offre la possibilité de pouvoir réunir plus de 1000 spectateurs sous une toile de tente. Le cirque y trouve son intérêt, puisque la radio va lui offrir une notoriété incroyable.
Chers amis de Villeurbanne, attention, attention.
C'est jour de fête au pays, quand le cirque passe.
Un ciné, le Radio Circus, en partenariat avec les frères Grusse.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs.
Après les clowns et les lions, on faisait entrer sur la piste le petit camion technique d'RTL. On déployait alors le décor, assez simple, une table, un micro. L'animateur phare de ces années circus s'appelle Zappy Max. Max Doucet de son vrai nom, ancien professeur de claquettes, mais surtout un sacré personnage monté sur pile électrique.
Et sans plus attendre, faites entrer notre premier candidat.
À la tête du Radio Circus, il va faire des merveilles, avec notamment un jeu baptisé le kit au double.
Ce jeu, vous le savez, apporte la fortune aux gens d'esprit, et rapidement, je vous en rappelle le règlement.
L'histoire du Radio Circus bascule un jour de 1952, lorsqu'un abbé remporte 256 000 francs. Lui, c'est l'abbé Pierre. Les auditeurs de Radio Luxembourg le connaissent déjà. Et ce jour-là, il est venu avec un but précis, tenter de décrocher le gros lot pour son mouvement Emmaüs. L'archive suivante est une reconstitution tirée du film Qui tout double.
Voulez-vous accepter ces 256 000 francs que vous offre Monsieur Tiroir? Et je vais être très indiscret, si vous le permettez. Je vais vous poser une question.
Je vous en prie.
Quel va être l'emploi de cette somme?
Cette somme va m'aider à construire des maisons à ceux qui couchent dehors.
Mais il n'y a pas eu que le Radio Circus. Fort de ce succès, Radio Luxembourg, qui n'a cessé de vouloir aller vers ses auditeurs, va inventer le radiothéâtre. De 1952 à 1956, aucune pièce de théâtre n'y était jouée. Sur la scène tournante, c'était un spectacle de variété sous l'œil du bouillonnant Marcel Faure.
Salut mesdames, salut mesdemoiselles et salut messieurs. Amis auditeurs, bonsoir.
C'est ici que Lynn Renaud y fera ses débuts comme animatrice radio. La radio au plus près de l'auditeur donnera bien des années plus tard une incroyable opération d'RTL. La première à tenter une délocalisation complète de son antenne dans une ville. Nom de code, les bulles RTL. Bulles, à cause de la forme du chapiteau pouvant accueillir des centaines de spectateurs, on délocalise toutes les émissions d'RTL et les grandes sessions d'information, comme ici à Lille en avril 1976. Et à chaque bulle, sa vedette.
RTL 18h30, c'est maintenant en direct de Lille. Le journal de Jacques Paoli.
Bien, je crois que nous allons pouvoir dans quelques instants maintenant vous proposer un bref entretien avec quelqu'un que vous connaissez, qui est venu nous voir en ami d'ailleurs aujourd'hui sous la bulle de RTL, Johnny Hallyday.
Lille, Tours, Nancy, Strasbourg et bien d'autres, ou encore Lyon. Lyon et cette émouvante anecdote. La vedette invitée ce jour-là était Claude François. Nous sommes le 18 janvier 1978 et à l'époque, Michel Drucker anime la grande parade. Il interviewe Claude François.
Claude François de Bézario. Claude, est-ce qu'il vous reste encore 30 secondes de souffle?
Un bon service.
Je me suis toujours demandé quel était le moteur de Claude François et où il trouvait son énergie.
Chaudel se puise dans ce que j'appellerais moi l'enthousiasme, ça se puise dans la tête et puis il faut être amoureux.
Et un peu plus d'un mois plus tard, Claude François décède le 11 mars 1978. Il avait rendez-vous ce jour-là encore une fois, mais en direct à la télé avec Michel Drucker.
Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main.
On va par Rio, on revient de Tokyo. Merci Laurent Marsic, le petit clin d'œil de Laurent. Dans 100 ans de radio, c'est une chronique à réécouter sur RTL.fr. Vous êtes bien sur RTL. Dans un instant, rendez-vous avec l'info.
RTL Soir.
Bénédicte Tassard.